question sur laquelle on va réfléchir aujourd'hui, que vous m'avez proposée, c'est « Peut-on désirer sans souffrir ?» Alors, a priori, être animé par un désir, c'est plutôt quelque chose qui nous fait envie. Par exemple, être amoureux, c'est une expérience qu'on a plutôt envie de vivre, de connaître. On y associe des idées de joie, d'élan, d'exaltation. Donc, on pourrait plutôt dire que le désir est désirable. Et pourtant, on sait que toutes les histoires d'amour ne finissent pas bien. Elles ne sont pas toutes légères et insouciantes. Parfois, elles sont traversées de mensonges, de frustrations, de trahisons, de drames. Et certaines histoires d'amour finissent dans la tragédie. Vous vous souvenez de Roméo et Juliette. C'est donc cette ambivalence du désir, le fait qu'il renvoie à la fois une expérience intense, forte, à des moments joyeux, mais aussi le fait qu'il soit inquiétant, angoissant, parfois douloureux. C'est cette ambivalence qui va nous intéresser. Comment se fait-il que le désir soit à la fois ce qui produit en moi les sentiments les plus forts et ce qui aussi peut créer les douleurs les plus grandes. Donc, à travers toutes les formes de désir qu'on peut éprouver, et on ne parle pas seulement de désir amoureux, hein, que ce soit des désirs de réussite, des désirs de pouvoir, de conquête, de liberté, ou un désir qui nous parle en ce moment, un désir d'ailleurs, eh bien, on verra cette ambivalence, ces deux aspects du désir, et on va essayer de comprendre pourquoi le désir s'articule certes avec le plaisir, la joie, mais aussi avec cette idée de souffrance. Et le sujet va jusqu'à nous suggérer que le désir aurait en lui-même comme composante essentielle cette expérience de la souffrance. Et certains philosophes vont même jusqu'à dire qu'il faut renoncer au désir parce qu'il suscite en nous trop de douleur. C'est par exemple le cas des philosophes de l'Antiquité, que sont les stoïciens, qui vont prôner une vie libérée de tout désir pour être affranchis de toute la souffrance que les désirs engendrent. Alors, est-ce qu'il faut aller jusque-là? Est-ce qu'il faut suivre les stoïciens et leur idéal d'ataraxie, comme ils disent eux-mêmes, ce terme, en fait, renvoie à l'idée d'une absence de trouble, étymologiquement, c'est ce que ça veut dire, l'ataraxie. Est-ce qu'il faut souhaiter connaître cette tranquillité, cette paix de l'âme, au prix d'un renoncement à tous les désirs? Est-ce que c'est cette absence de souffrance qu'on doit viser? Est-ce que c'est ça le bonheur? Mais alors, si on se prive de toute l'intensité du désir, est-ce que notre vie ne devient pas aussi triste comme... le dit Calliclès dans son dialogue avec Socrate, dans un texte de Platon, est-ce que notre vie ne devient pas aussi triste que celle d'une pierre? Et puis, on peut aussi dire aux stoïciens que derrière cette idée de renoncer à tout désir, il y a peut-être un désir dissimulé. Est-ce que finalement, les stoïciens ne continuent pas à désirer quand ils désirent ne plus souffrir? Il semble donc difficile finalement d'éteindre toute étincelle de désir chez l'homme. Il semblerait que, quoi qu'il arrive, même chez ceux qui décident d'y renoncer, il reste peut-être quelque chose comme la trace d'un désir. Et donc, il faut s'interroger plus avant sur sa nature. Essayer de comprendre quelle est son articulation avec cette souffrance. Est-ce qu'il y a une souffrance spécifique du désir? Et si oui, se demander à quoi elle est due. Sur les types de souffrances que le désir engendre, il semble qu'il y ait plusieurs pistes. Peut-être y a-t-il différentes formes de souffrance et peut-être peut-on identifier des moments dans l'histoire d'un désir où la souffrance apparaît. Alors, ça peut être d'abord la souffrance de l'incertitude. Je suis amoureux de quelqu'un dont je ne sais pas s'il m'aime en retour, donc je suis dans le doute, dans l'attente, j'attends des signes, je vais tout interpréter, je suis dans une espèce d'herméneutique du désir, c'est-à-dire je vais prendre tous les signes et essayer d'y voir un ensemble qui me conforte dans l'idée que cet amour est partagé. Mais il y a donc dans ce moment-là où je ne sais pas encore si mon désir pourrait être satisfait, on peut prendre d'autres exemples évidemment, je peux avoir un désir de réussite autour d'un projet professionnel et j'ai des moments de doute, de découragement, j'ai l'impression que je n'y arriverai jamais, donc il y a ces moments un peu de montagne russe que le sujet peut vivre quand il est dans la progression d'un désir ou le déploiement d'un désir, et il est incertain quant à la réalisation possible, la satisfaction possible de ce désir. Donc là, c'est une souffrance liée à l'incertitude qui plane sur la possibilité de satisfaire, d'assouvir ce désir. Mais il y a aussi sans doute une souffrance de la certitude. C'est-à-dire au moment où je comprends que mon désir ne pourra jamais être réalisé. C'est l'expérience de la frustration. Il ne m'aime pas en retour, elle ne m'aimera jamais. C'est aussi la possibilité dans une histoire de désir d'une rupture et toute la souffrance qui est liée au fait de se sentir abandonné, rejeté, renié par un ancien amour. Donc c'est toutes les formes d'insatisfaction ou d'impossibilité de satisfaire ce désir. C'est le moment où je dois renoncer à l'objet de mon désir. Et là, cette certitude produit de la souffrance. Donc lorsque disparaît pour moi l'objet de mon désir, lorsque je perds l'objet de mon désir, mon bien-aimé part à la guerre et n'en revient pas, eh bien, je connais cette souffrance-là d'un désir, un objet du désir qui m'échappe et la condamnation de ce désir dans lequel j'avais mis tant d'espoir est évidemment particulièrement douloureuse. Donc dans ces cas-là, la souffrance, elle est d'une certaine manière accidentelle. Disons qu'on dira philosophiquement qu'elle est contingence. Elle aurait pu ne pas advenir. Mon bien-aimé aurait pu ne pas partir à la guerre. Il aurait pu ne pas rencontrer cette femme pour laquelle il nous quitte. Donc, j'aurais pu imaginer que cette histoire de désir se poursuive. Ce désir aurait pu être épargné et aurait pu continuer à se déployer. Mais on peut aussi penser que cette souffrance n'est pas seulement contingente, accidentelle, mais qu'elle est nécessairement liée à la nature même du désir. Que le désir est structurellement une expérience, ne serait-ce que ponctuelle, de la souffrance. L'une des manières de théoriser cette idée, c'est de reprendre une représentation mythologique qui est celle du tonneau des Danaïdes, que là encore on retrouve dans les œuvres de Platon. Le tonneau des Danaïdes, c'est ce tonneau qui est percé et qui se vide au fur et à mesure que je remplis. Et le désir, finalement, serait comparable à ce tonneau percé au sens où il semble ne jamais se satisfaire. Il semble qu'il soit impossible de réussir à véritablement assouvir le désir, comme s'il ne cessait jamais de se reformuler en une autre intention, comme s'il était toujours en train de se déplacer vers un nouvel objet du désir. Et la figure, évidemment, de celui dont les désirs ne se tarissent jamais, c'est Don Juan. Don Juan qui démultiplie les conquêtes, qui ne cesse jamais de déporter son désir d'une femme à l'autre. Et dans l'opéra de Mozart, Don Giovanni, on a ce moment du catalogue où sont égrenées la liste de toutes les amoureuses, un nombre impressionnant de conquêtes de Don Juan, qui semblent ne pas pouvoir se satisfaire de l'une d'entre elles, qui les aiment toutes, qu'elles soient jeunes, qu'elles soient vieilles, qu'elles soient minces, qu'elles soient grosses, blondes, rousses, brunes. Toutes les femmes sont potentiellement l'objet de son désir. Et Don Juan, en ce sens, incarne cette insatisfaction et ce renouvellement infini du désir. Donc, est-ce que c'est le désir qui est lui-même une espèce de mauvais infini, on pourrait dire, parce que c'est un infini qui nous entraîne presque dans une forme d'obsession ou d'addiction, jamais satisfaite, jamais comblée. Et est-ce que finalement, de manière essentielle, la nature du désir ne renvoie pas à cette impossibilité d'être comblée, à l'idée d'un manque? On pourrait défendre, comme certains philosophes contemporains, mais aussi comme le dit déjà l'étymologie du mot désir, l'idée que le désir soit lié à un manque. Le terme de désir, étymologiquement, est lié à la perte des étoiles. C'est lié à une forme de nostalgie, de quelque chose qui était sublime, qui a disparu et qui nous manque. Donc, on pourrait aller jusqu'à dire qu'il y a en chacun d'entre nous un manque essentiel. Certains philosophes parlent de manque ontologique, donc quelque chose qui manque à notre être, qui fait qu'on on souffre de notre incomplétude, de notre insuffisance. On a l'impression d'être un peu vide. Et pour répondre à cette vacuité que l'on éprouve et qui est douloureuse, eh bien, on va aller vers l'autre en espérant qu'il comble ce vide en nous. Cette image-là, là encore, vous la connaissez, elle vous dit quelque chose, elle est familière. On la retrouve dans le mythe d'Aristophane. Le mythe d'Aristophane, Aristophane est est un auteur comique de l'Antiquité et il propose une représentation un peu grotesque de l'amour à travers des êtres qui auraient été à l'origine dotés de deux têtes, de quatre bras et de quatre jambes. Et ils auraient été séparés par Dieu, ce qui les aurait coupés en deux, et depuis, chacun cherche sa moitié. Ce mythe d'Aristophane, qu'Aristophane propose de manière plutôt humoristique, Platon le reprend dans son banquet, dans son œuvre intitulée Le banquet, et dans ce passage se pose la question de savoir si c'est parce que je suis justement incomplet que je vais tendre vers l'autre. Est-ce que je vais chercher une fusion avec l'autre parce que je me sens un peu trop vide? Est-ce que je vais rechercher chez l'autre cette coïncidence? Et on a dans de nombreux textes la référence à cette moitié que je veux rechercher. Ronsard, dans ses amours, vous savez, Ronsard, le poète, dans ses amours, dit que dans la moitié de l'autre, il essaie de recoller la sienne. Exactement, en sa moitié, la mienne, je recolle. Donc, on a ici un schéma qu'on va trouver de manière récurrente dans l'histoire de la littérature, et en particulier, évidemment, de la littérature romantique ou amoureuse. Alors, il faut se demander si cette recherche de la fusion avec l'autre n'est pas, d'une certaine manière, déjà une forme d'illusion. Est-ce qu'il existe effectivement un autre qui pourrait me combler, qui serait ma moitié? On voit bien ici apparaître une autre possibilité, une autre piste pour analyser cette souffrance, qui serait la suivante. C'est d'une certaine manière moi-même qui, malgré moi, sans vraiment m'en rendre compte, suis la source de la propre déception causée par un désir inassouvi ou par l'impossibilité d'assouvir ce désir. Pourquoi? Parce que peut-être que je nourris des représentations fantasmées, illusoires, impossibles à réaliser, qui nourrissent mon désir et qui font que nécessairement je ne réussirai pas à le concrétiser. Autrement dit, la souffrance liée au désir, c'est peut-être moi qui la produis par le biais de mon imagination, dont la force est de m'extraire du réel, mais dont le danger, le risque, est précisément de m'entraîner dans ce processus de déréalisation, c'est-à-dire de m'entraîner, de me faire sortir du réel, de nourrir tout un imaginaire irréel au sein duquel eh bien, mon désir va se déployer.
S'il est impossible de réaliser mon désir, s'il ne réussit pas à coïncider avec son objet, c'est peut-être parce qu'il est, par principe, impossible à réaliser. S'il y a un tel écart entre mon désir et sa réalisation dans le monde, c'est peut-être
parce que mon imagination crée une disproportion. C'est l'imagination qui rend incommensurable, incompatible, le désir et le réel. Il faut donc bien analyser dans notre rapport au désir les représentations qui le nourrissent. Il faut avoir non pas un rapport spontané à notre désir, mais un rapport distancié et critique. C'est ce que proposent en tout cas les philosophes de l'Antiquité, que sont les stoïciens. Et en particulier l'un d'entre eux, qui s'appelle Épictète, et qui produit un petit texte qu'il appelle son manuel, manière de dire que c'est un texte qu'on peut avoir toujours en main, qui nous aidera à mieux vivre au quotidien. Donc dans son manuel, au paragraphe 4, Épictète nous donne un exemple très simple. Je désire aller au bain. Les bains publics, les thermes, vous savez, c'est une pratique assez commune sous l'Antiquité. Et pourquoi je désire y aller? Parce que je me représente que ce sera agréable, que l'eau sera chaude, que je pourrai me détendre, je pourrai y retrouver mes amis et bavarder calmement avec eux. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe au bain, dit Épictète? En réalité, les gens se jettent de l'eau, ils sont parfois bruyants, ils perturbent ma tranquillité. Mon désir ne sera pas comblé parce que il se nourrit d'une représentation idéalisée des bains qui est à l'écart, en plus extrêmement qui est différente de ce qu'est la situation dans laquelle je me trouverais si je vais vraiment au bain. Donc notre imagination, parce qu'elle idéalise, elle sublime, elle magnifie l'objet de son désir, est la source de notre souffrance, ou en tout cas de notre déception, de notre frustration, parce qu'elle produit un objet du désir qui n'est jamais, comment dire, reproductible ou concrétisable dans le monde réel. Que fait l'imagination ? Elle me transporte dans un impossible évidemment extrêmement désirable, extrêmement tentant, mais c'est en cela, parce qu'elle crée des espèces d'effigies, c'est-à-dire d'objets du désir sublimé, idolâtré d'une certaine manière, c'est en cela qu'elle est déceptive. Et c'est ce que nous dit un philosophe du XXe siècle qui s'appelle Paul Ricoeur et qui, lui aussi, revient sur cette responsabilité de l'imagination dans la déception que le désir peut produire. Mais il y a peut-être encore une autre source qui produit la souffrance liée au désir. Il se pourrait que mon désir ne soit pas impossible en tant que tel, disons que sa satisfaction, sa réalisation ne soit pas impossible, mais qu'elle soit rendue impossible par la situation dans laquelle je me trouve, et plus exactement par la société dans laquelle je vis. C'est peut-être la société, à cause des règles, des normes, des lois, des institutions qu'elle met en place et qui régulent notre rapport au désir, qui va produire de la souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand la loi ou quand la coutume, quand la règle morale s'interpose entre mon désir et moi et le rend impossible, quand elles sont principes de frustration et parfois de désespoir, puisque certains désirs sont essentiels au sujet, presque vitaux d'une certaine manière, alors c'est bien la société qui, dans cette frustration qu'elle produit, est à l'origine de la souffrance qui est la mienne. Et du coup, il faudrait peut-être se demander s'il ne faut pas s'affranchir de ces lois sociales et vivre son désir de manière plus radicale, quitte à transgresser les lois sociales. Les premiers à l'évoquer, ce sont les philosophes qui se sont eux-mêmes nommés cyniques, en référence à un terme grec qui signifie le chien. Les cyniques veulent vivre comme des chiens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils veulent vivre plus spontanément, plus immédiatement le rapport à ce qu'ils ressentent, et notamment satisfaire leurs désirs comme ils l'entendent, sans obéir aux lois de la société. Ils vont, par exemple, s'opposer aux lois du mariage, penser que le désir doit rester libre. C'est une pensée ancienne, mais qui, par certaines de ses revendications, est extrêmement moderne et continue à avoir un côté très transgressif. Et qui se souviendra des cyniques ? Un philosophe du XXe siècle qui s'appelle Michel Foucault, et qui écrit notamment une histoire de la sexualité, au sein de laquelle eh bien, il va réfléchir justement sur les différentes manières dont on a satisfait le désir sexuel au fil des époques, pour montrer qu'il y a un arbitraire social dans la définition des désirs qui sont normaux et de ceux qui sont déjà des perversions inquiétantes. Et en prenant par exemple l'exemple de l'homosexualité, on voit bien que selon les époques, l'homosexualité a pu être tout à fait tolérée, être familière, habituelle, comme c'était le cas sous l'Antiquité grecque et romaine, a pu devenir condamnable sous l'effet de l'instauration des grands monothéismes, continue dans certains pays du monde à être source d'emprisonnement, voire de mise à mort, et dans d'autres pays accède à une légitimité, à une forme de reconnaissance sociale et légale, et permet aux homosexuels d'obtenir des droits similaires à ceux des hétérosexuels. Donc, on voit bien que parfois la souffrance dans l'impossibilité de satisfaire un désir, y compris quand ce désir tient à mon identité, donc est véritablement essentiel, est parfois produite de l'extérieur, non pas de l'intérieur, comme c'était le cas avec l'imagination tout à l'heure, où j'étais moi-même ma propre source d'illusion, mais ici, la frustration est produite de l'extérieur, par les normes de la société, par ces définitions arbitraires de ce qu'est un bon ou un mauvais désir. En tout cas, certaines sont arbitraires, peut-être pas toutes, mais de ce que serait un bon ou un mauvais désir. Donc les obstacles à la satisfaction du désir peuvent être extérieurs, venir du monde qui nous entoure, peuvent être intérieures ou intériorisées. Vous vous souvenez que Freud, par exemple, dans sa topologie de l'inconscient, va proposer, parmi les forces inconscientes, l'idée d'un surmoi, c'est-à-dire l'intériorisation par le sujet d'un ensemble d'interdits sociaux, religieux, mais aussi liés à l'histoire de la famille, qui vont donc freiner, frustrer, refouler, dit Freud, certains désirs. Tous ces éléments nous font bien comprendre pourquoi le désir est souvent insatisfait et lié à la souffrance, la multiplicité de sources de frustration apparaissent comme la source de ces multiples souffrances que le sujet peut connaître au travers d'une histoire du désir. Et pourtant, certains philosophes défendent l'idée que les désirs étaient essentiellement joie, exaltation, plaisir, jouissance. Certains philosophes vont revendiquer la possibilité de revenir à un désir qui soit un désir épuré, libéré de cette sensation de souffrance ou tout au moins de désagrément, de douleur. Les premiers à revendiquer cette possibilité d'une joie simple dans la satisfaction des désirs, ce sont les épicuriens. Les épicuriens font précisément ce travail qu'on a évoqué tout à l'heure, un travail de réflexion sur la nature de nos désirs et identifient, parmi tous ceux que nous pouvons éprouver, ceux qui vont nécessairement nous conduire à une frustration, à de la souffrance, et ceux qui peuvent, au contraire, nous faire sortir de ce mauvais infini du désir qu'on évoquait tout à l'heure, un désir jamais satisfait qui en veut toujours plus, un désir presque glouton, un désir de dévoration d'une certaine manière. Et les épicuriens donc vont dire qu'il y a des désirs simples qui nous apportent un plaisir plein, un sentiment de satisfaction au sens presque étymologique. Satisfaction, c'est quand j'en ai assez, quand je suis bien comme ça. Et l'un des exemples très simples que donnent les épicuriens, c'est d'être avec des amis à l'ombre lorsqu'il fait chaud, auprès d'une rivière où on peut se rafraîchir, de manger des mets simples mais agréables, de partager un moment musical. Voilà une configuration, une espèce d'agencement au sein duquel mes désirs produisent une joie, un sentiment agréable. Et en ce sens, certains de mes désirs peuvent assez facilement générer en moi un sentiment de satisfaction. Donc les épicuriens, les premiers, proposent d'une certaine manière de recadrer parmi l'ensemble des désirs, de hiérarchiser pour faire en sorte que le désir cesse d'être une source de douleur. Évidemment, si mon désir est d'être immortel, d'être l'égal des dieux, si mon désir est dans ce type de délire, je suis sûre que je serai malheureux et frustré. Et cette idée... Descartes s'en souvient plus tard, qui dit que si je veux effectivement avoir un corps transparent ou si je veux voler, évidemment je serai frustrée. Mais si je réajuste mes désirs à ce qui est possible, et Descartes dira, si je change mes désirs plutôt que de vouloir changer l'ordre du monde, alors j'ai la possibilité de les satisfaire. Autrement dit, c'est comme si dans l'infini des possibles, je dessinais un cercle au sein desquels mes désirs sont possibles, c'est-à-dire réalisables, et là, je peux accéder à la joie que le désir procure. Mais on peut penser plus radicalement, plus essentiellement, que le désir est non pas seulement quelque chose que j'expérimente dans des situations particulières en rapport avec un objet, mais que le désir est déjà en moi comme un mouvement, un élan, un principe dynamique qui est mon essence même. Celui qui dit ça, vous l'avez identifié, c'est Spinoza. Spinoza va définir le désir comme l'essence de l'homme, comme ce mouvement qui est au principe même de son existence. Dans sa théorie des affects, dans son ouvrage majeur qui s'intitule L'éthique, Spinoza va distinguer deux types d'affects, les affects joyeux et les affects tristes. Il parle de passion triste ou de passion joyeuse. Qu'est-ce que c'est qu'une passion joyeuse? Quels sont les désirs qu'il faut privilégier dans notre existence? Ce sont les désirs qui, précisément, produisent en moi la joie et dont Spinoza dit qu'ils qu'ils augmentent ma puissance d'agir. Que produit le désir quand il est joyeux? Il produit ce qu'on pourrait appeler, avec Spinoza, une dilatation de mon être. C'est comme si je devenais plus ample, plus ouvert, comme si tout d'un coup quelque chose en moi était plus large, plus spacieux. C'est comme si je découvrais un espace intérieur qui s'épanouissait. C'est ça le sentiment de joie, c'est ça l'exaltation d'après Spinoza, et c'est ce que produisent certains désirs. Et donc, chacun doit identifier les affects joyeux de son existence. Et là encore, Spinoza, dans un petit passage de l'éthique, qui passe parfois inaperçu, dit, et c'est très épicurien finalement, la manière dont il le dit, que ces affects joyeux, ils peuvent être produits par des choses très simples. Par un bouquet de fleurs chez soi, par des parfums agréables, par une douce musique, par le fait d'avoir mis une belle tenue, de s'être bien coiffé. On est très étonné de trouver ce genre de remarques qui paraissent accessoires dans un grand texte de philosophie comme l'éthique. Mais ce que dit bien Spinoza, c'est que ces passions joyeuses, elles sont créées par tout un tas de petites choses qui, en moi, vont d'une certaine manière produire une mélodie joyeuse à l'intérieur de mon être. Et un philosophe du XXe siècle, Gilles Deleuze, qui est un grand lecteur de Spinoza, s'en souviendra. Il dira que le désir est produit par un agencement, tout un ensemble de composantes qui, mises ensemble, ajustées les unes aux autres, vont produire en moi un sentiment de joie. Et Deleuze, dans un entretien filmé que vous pouvez aller voir, qui s'intitule l'abécédaire, puisqu'à chaque lettre de l'alphabet correspond à un concept, donc à D comme désir, Deleuze prend un exemple très simple. Un rayon de soleil sur une femme qui passe habillée d'une jolie robe. Bon, l'exemple est un peu sexiste, mais mettons ça entre parenthèses. Voilà ce qui peut produire du désir. Et c'est cet agencement-là qui va créer en moi cette joie, cette exaltation. Le désir, donc, dit Spinoza, c'est finalement cette dynamique essentielle du sujet. C'est ce qui produit la joie. Et on est très loin avec Spinoza, on est très loin. Si on est capable de faire cet effort critique entre les passions tristes et les passions joyeuses, on est très loin d'un désir qui serait essentiellement lié ou intrinsèquement lié à la joie. Alors, on voit déjà ce que le désir, comme élément dynamique, a potentiellement de créateur. C'est-à-dire, il est cette mise en mouvement, mais qui fait de moi aussi un être qui utilise cette énergie pour créer. Et là encore, Deleuze, en lecteur de Spinoza, dira de nous que nous sommes des machines désirantes, c'est-à-dire des machines qui produisent sans cesse de nouveaux désirs, mais aussi des machines qui sont alimentées par ce désir. Et on pourrait alors revenir sur la critique antérieure qu'on a faite de l'imagination, qu'on a beaucoup stigmatisée comme principe d'illusion, comme principe de déréalisation, notamment dans l'amour, qui ferait qu'elle entretiendrait en nous des désirs qui sont impossibles. Mais je voudrais un instant m'arrêter sur un petit extrait d'un texte d'un essayiste du XXe siècle, qui est aussi poète, que vous connaissez peut-être à travers ses poèmes, qui est Paul Valéry. Paul Valéry dit que dans l'amour, on n'aime jamais que des fantômes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'être que j'aime, en fait, je l'ai déjà sublimé. Je l'ai déjà imaginé encore mieux qu'il n'est. Donc mon désir crée un fantôme, c'est-à-dire un être qui n'existe pas, en puisant dans un être qui existe. Donc j'aime Monsieur X, mais Monsieur X idéalisé, encore mieux qu'il n'est. J'ai corrigé tout ce qui m'apparaît en lui comme étant des petits défauts. Valérie dit, je vais un peu redresser ce nez là, puis je vais l'habiller autrement, pour qu'il soit vraiment l'homme ou la femme idéale. Donc, on est incapable, dit Valérie, d'aimer l'autre tel qu'il est. Ça a l'air d'être un constat totalement désespérant, mais Valérie va poursuivre, et à la manière dont il renverse ce premier moment de critique est intéressante. Il dit que le comble de l'amour partagé consiste dans la fureur de se transformer l'un l'autre, de s'embellir l'un l'autre, dans un acte qui est comparable à un acte artistique. Et qu'est-ce qu'il y a d'artistique ici ? C'est que l'amour de l'autre fait surgir en moi un moi inédit. Il fait apparaître un moi neuf. Et c'est ça peut-être le plaisir de l'amour, c'est de se découvrir sous le regard de l'autre, devenir différent. C'est comme si en moi, il y avait plus que moi, comme si je ne me réduisais pas à la personne que je suis là maintenant, et que l'amour de l'autre produit en moi quelque chose de nouveau, de neuf. Et ça, c'est aussi l'un des plaisirs peut-être de l'amour, l'une des joies fortes liées au désir amoureux, c'est de voir qui je deviens, quelle personne qui est en moi, je découvre dans ce processus amour. Autrement dit, ce que dit Valérie ici, c'est qu'il y a une création de soi ou une recréation de soi dans le désir partagé. La circularité du désir fait émerger de nouvelles personnes, non pas des personnages artificiels, dans une espèce d'aliénation où j'essaierais d'être le mieux possible pour plaire à l'autre, mais quelque chose qui était en nous. Qu'est-ce que le désir nous fait découvrir ? Que nous sommes plus que ce que nous sommes. Qu'il reste du possible en nous, et c'est ça la puissance créatrice du désir. Enfin, on pourrait quand même revenir sur cette idée de souffrance et se demander, avec un philosophe allemand qui s'appelle Leibniz, si, dans le fond, le désir n'est pas inquiétude, le terme est un peu, souffrance, le terme est un peu fort, mais inquiétude, voilà, je le dis. Donc, Leibniz, dans un texte qui s'intitule Les nouveaux essais sur l'entendement humain, dans ces nouveaux essais, Leibniz pense que le désir est inquiétude, plus exactement, il pense qu'il y a en nous des petits aiguillons de désir, des tout petits éléments de douleur, vraiment des particules de douleur, des demi-douleurs, des douleurs quasi imperceptibles, qui sont comme à l'arrière-fond de notre conscience, qui sont comme des aiguillons, c'est-à-dire qui nous poussent à agir. Vous voyez bien que quand Spinoza dit que le désir est moteur, Leibniz, lui, va un peu plus loin en essayant de voir quelle est la source de cet élan. Et Leibniz fait déjà apparaître quelque chose comme des degrés de conscience. Hein. Il dit qu'il y a une forme de subconscience dans laquelle nous avons des sentiments imperceptibles. Et à l'origine du désir, il y aurait cette inquiétude, cette démangeaison, dit aussi Leibniz dans son texte. Et il fait référence à un texte de Platon, dans le Phédon, au moment où Socrate vient de se faire ôter les chaînes qu'il avait aux pieds. Et il dit le plaisir qu'il ressent à ne plus souffrir le contact de contact de la chaîne. Et à ce moment-là, Socrate dit bien comment douleur et plaisir sont articulés l'un à l'autre. Pour qu'il y ait cet élan du désir, il faut qu'il y ait eu auparavant ce petit désagrément qui est en même temps disposition au désir. Il faut que nous ayons été incommodés par des toutes petites sensations désagréables, par cette démangeaison, dit Leibniz, ces aiguillons du désir, pour être activés, réveillés, dit-il. Ce sont ces inquiétudes même qui éveillent l'homme, qui le rendent actif, qui éveillent de l'espérance en lui, ces aiguillons insensibles, dit-il encore, cette intranquillité, hein, inquiétude, ça veut dire littéralement ne pas rester en place, être dans une forme d'intranquillité, qui font agir notre machine. C'est comme autant de petits ressorts, dit Leibniz, toujours dans ce même texte, qui font agir notre machine. Donc, j'ai au départ un petit sentiment de quelque chose de désagréable qui me manque, que j'ai envie d'aller rechercher, et c'est ça qui me met en mouvement. C'est pas si éloigné que ça, et c'est pas par hasard, hein, de ce que Freud dira par la suite quand il parlera de la pulsion dans sa thématisation du désir et de l'inconscient. Il y a bien quelque chose de ce type, quelque chose de désagréable qui fait que j'ai envie de tout faire pour le combler. Eh bien, on a quelque chose de similaire. Et Freud, évidemment, avait lu Leibniz puisque sa théorie des perceptions conscientes ou inconscientes ou semi-conscientes a évidemment beaucoup intéressé Freud. Donc, ce que dit Leibniz, c'est que dans la vie, les choses se connaissent par différence. Et que de la même manière que dans un gâteau, je mets une pincée de sel, ou que dans une composition musicale, je mets un peu de disharmonie pour mieux jouir par la suite de l'harmonie qui vient. J'ai besoin d'un peu de mineur pour des modes majeurs de l'existence. Donc, de la même manière, le désir est d'abord cette espèce de démangeaison qui demande à être comblée. C'est par cette différence entre la frustration première et la satisfaction seconde que le désir prend toute son intensité et qu'il est donc pour nous à ce point désirable. Donc vous voyez que le cheminement qui a été le nôtre, on est parti de la souffrance, du manque qui serait propre au désir, pour finalement se dire que sans ce manque, il n'y aurait pas de jouissance, pas de plaisir, pas l'intensité ou l'exaltation du désir. C'est parce qu'il y a au départ ces petites douleurs, cette inquiétude première et presque imperceptible que le désir se déploie et qu'il prend cette intensité et cette force dans notre vie. Je vous remercie.